Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. Mes bien chers frères et mes bien chères sœurs dans le Christ, c'est dans l'écho de ce verset, Jean 14, 23, des plus appropriés au thème que nous abordons aujourd'hui, que je vous dis de tout cœur que l'amour, la joie, la paix et la miséricorde du cœur du Père en le Fils et en les feux de l'Esprit-Saint, feux d'amour et de gloire, soient avec vous maintenant et pour toujours. Et je vous souhaite la plus cordiale bienvenue en tant qu'auditoire visible ici présent. Je salue par anticipation tous les auditeurs et auditrices éventuels. Et je salue également cette multitude qui va composer l'auditoire invisible et pour qui d'ailleurs nous avons intercédé il y a un instant durant notre temps d'adoration qui précède toujours, comme vous le savez, les enregistrements. Que le Seigneur, par son Esprit, les comble en direct, par un miracle de sa grâce, d'une abondance de lumière et de force sur le thème d'aujourd'hui. Et nous voici rendus à l'été de 1993, 93, comme on dit en certains pays d'Europe. Comme le temps file. Vous le savez déjà, les mois de juin, juillet et août marquent pour vous comme pour moi le premier anniversaire des trois grandes proclamations prophétiques de 1992. D'abord, celle du Big Bang spirituel, annonçant cinq grands événements d'ici l'an 2000, à savoir la grande purification des esprits, des cœurs, des âmes et des corps, le retour de Jésus sur terre en son corps glorieux de ressuscité, c'est-à-dire tel qu'il était apparu à ses apôtres après sa résurrection, la fin du règne de Satan et compagnie, le renouveau spirituel en profondeur de l'Église et le début d'une ère incroyable d'amour, de joie et de paix dans la plus pure vérité, justice et miséricorde divine, ce qui n'a rien à voir avec l'idée millénariste bien connue. Il y a eu ensuite la fraternelle interpellation aux évêques, la quatrième, prophétisant un au revoir et merci, prochain et certain, à un type actuel d'évêque, laissant sous-entendre que le même sort attend nombre d'autres en Église, comme par exemple des prêtres, des fidèles, religieux, religieuses et dirigeants de mouvements, avec l'avènement bientôt d'un style de nouveau. Et, jamais 203, le trio des grandes proclamations s'est conclu par cette prophétie sur Jean-Paul II, que l'Esprit du Seigneur a bien voulu, à travers l'instrument pauvre, faible et limité que je suis, faire connaître davantage, apprécier et soutenir à sa juste et vraie mesure exceptionnelle. Mes frères et mes sœurs, je vous l'avoue, un an après ces proclamations, je n'en regrette pas un iota, pas un seul mot, pas une seule affirmation. Tout se déroule tel que prophétisé. Je n'en vois et reçois, et sans doute vous aussi, que confirmation sur confirmation. et les courants d'air négatifs ou froids n'ont aucune prise sur la poursuite du plan divin. C'est vraiment de toute beauté, de toute sécurité et de toute espérance. Je vous invite donc à rendre grâce au Seigneur avec moi, de nous combler ainsi en tant que peuple de Dieu. Peuple qui, par ailleurs, se montre si souvent ingrat, sourd, pécheur, et même révolté parfois, hélas. Il n'y a vraiment que son amour et sa miséricorde inlassable et infinie pour ainsi passer outre à l'attitude regrettable d'une grande portion de ses enfants et venir quand même au secours des siens qui étouffent, souffrent, s'entretuent de plus en plus dans un monde où il y a de moins en moins de foi et de bonnes mœurs. Comme il est bon, le Seigneur, notre Dieu trois fois saint. Merci, multi-merci, infiniment merci de nous avoir choisis pour servir en sa présence en ces derniers temps exceptionnels. Pour commémorer ce premier anniversaire comme il se doit, après avoir prié, jeûné, consulté et discerné spirituellement, il m'a paru indiqué de mettre en circulation trois nouveaux vins du Seigneur. D'abord, une cassette intitulée « Aimer et servir l'Église, lui être fidèle, quoi qu'il arrive !» Point d'exclamation. PH307. Elle est d'ailleurs déjà enregistrée et en circulation. En effet, il nous semblait important à ce moment-ci d'inviter tous les fidèles à réaffirmer leur amour et leur fidélité à l'Église, à cette partie essentielle de l'Église qui ne périra jamais, même si beaucoup de tout ce qu'elle est et de tout ce qu'elle a présentement risque de tomber rapidement en ruine d'ici l'an 2000. Ensuite, mettre en circulation une série de plusieurs cassettes sur la mission, dite « Mission du Père ». J'ai perçu en effet que le Père qui a lancé cette mission en ces derniers temps et continue de communiquer ses enseignements à ce propos depuis déjà 15 ans, veut qu'elle soit rendue publique, proclamée en quelque sorte devant le peuple tout entier, si possible avant la venue de Jésus d'ici l'an 2000. C'est donc vous et nous dire qu'il n'y a pas de temps à perdre. Ces enregistrements sur la mission du Père comprendront trois séries de deux cassettes chacune. La première série donnera une information générale sur la mission, et c'est ce que nous allons enregistrer aujourd'hui. La deuxième série traitera des ministères dits invisibles. Enfin, la troisième série nous parlera des facteurs de croissance en cette mission du Père. Le numéro de ces cassettes sera PH308 et suivant. Enfin, une série d'enseignements, déjà annoncés d'ailleurs, et fortement attendus, semble-t-il, intitulée « Les 10 dés en Église d'aujourd'hui, en ces temps exceptionnels ». Il s'agira d'un guide d'accompagnement fort utile pour tous ceux et celles qui, en Église, se trouvent ou se trouveront confrontés, soit par des parents ou des amis, soit par des confrères ou des consœurs, soit par des pasteurs d'âme ou des chefs spirituels, qui, spirituellement parlant, ne voient pas, n'entendent pas, ne comprennent pas tout ce qui se passe d'extraordinaire présentement dans les âmes, le monde et l'Église. Comme vous le constatez, il n'y aura pas de chômage. Le buffet est bien garni. Il y en a et il y en aura pour tous les goûts et pour tous les besoins. L'été en cours, vous pouvez bien le voir et le comprendre, ne sera vraiment pas un temps de vacances, mais plutôt un temps de relance. Revenons-en au thème de la cassette d'aujourd'hui. Je vous ai souvent expliqué que lorsque le Seigneur nous enseigne un vin nouveau, il exige de nous au minimum deux choses. D'abord, que nous commencions nous-mêmes à mettre intégralement en pratique tout ce qu'il s'est donné la peine de nous enseigner, avant même de songer à le communiquer aux autres en Église. Ensuite, il tient, avec raison, à ce que lui seul, par son esprit, décide quand, comment et où ce vin nouveau du Seigneur peut et doit être proclamé. Mieux que quiconque, en effet, il sait exactement quelles outres sont prêtes, c'est-à-dire ont l'élasticité spirituelle requise, pour recevoir et déguster avec profit un tel vin nouveau du Seigneur. Et il peut s'écouler parfois des mois, des années, entre l'accueil d'un enseignement et l'autorisation d'en faire la livraison. La mission du Père, dont il est question aujourd'hui, est, à la vérité, plus qu'un vin nouveau du Seigneur. C'est vraiment le champagne des champagnes du grand vignoble du Père. Et même si elle nous est bien connue depuis plus de 10 ans, le Père, par son esprit, vient tout juste d'en autoriser la proclamation publique et désire même, comme je l'ai dit tantôt, que cette annonce soit faite sans délai inutile à la veille de la venue imminente de Jésus sur terre. C'est donc dans la plus pure et prompte obéissance, filiale, à Dieu le Père, et avec une joie et une paix indicibles, que j'amorce cette série d'enregistrements sur la mission du Père. Jusqu'à ce jour, nous avons toujours procédé avec la plus grande discrétion possible, selon le désir même du Père. Non pas parce que la mission était incertaine, mystérieuse ou dangereuse, loin de là, mais simplement parce que nous étions avertis que tous n'y sont pas, du moins encore, appelés, préparés et prêts soit à en entendre parler, soit à pouvoir la comprendre et l'accepter, soit à apprendre et apprécier sa beauté et sa portée. Je me suis donc contenté, au cours des dernières années, d'y faire allusion à quelques reprises, mais toujours à mots couverts seulement. Notamment, une première fois, vous vous en souvenez peut-être, dans « Essor ou déclin de notre Église », une autre fois l'année dernière au chapitre 7 du Big Bang spirituel. Mais aujourd'hui, à la demande même du Père, nous passons résolument des mots couverts aux mots ouverts. Mes frères et mes sœurs, me voici donc encore une fois en récidiviste presque impénitent, prêt à m'élancer dans un autre très grand plongeon dans la foi. Et si vous me permettez une parenthèse, comme je le dis souvent à mes confrères et consœurs, J'ai l'impression, pour recourir à une comparaison d'allure sportive, de vivre depuis les débuts des fondations un genre de concours olympique de natation spirituelle, où d'une fois à l'autre, le saut que le Seigneur me propose d'exécuter est de plus en plus périlleux, et d'un tremplin qui ne cesse d'être haussé, toujours surélevé par rapport au précédent. Vous savez qu'en 1974, mon premier grand plongeon dans la foi fut, bien entendu, ma démission surprise du poste de secrétaire général de l'Épiscopat du Canada et cette décision audacieuse de chercher dans la prière et dans l'écoute auprès du Seigneur ce qui expliquait notre déclin constant en Église. Puis, en 1984, ce fut l'entrée des fondations dans l'étape de leur vie publique et la mise en train de cette mission prophétique, pastorale et communautaire intitulée « Église, évangélise-toi toi-même encore davantage ». En 90, le troisième tremplin encore plus haut fut l'interpellation des interpellations aux églises d'aujourd'hui intitulée « Essor ou déclin de notre Église ». L'année dernière, le grand saut périlleux des trois proclamations dont nous avons déjà parlé. Le Big Bang spirituel, l'appel aux évêques et Jean-Paul II. Et maintenant, en guise de plongeon dans la foi, au sommet des tremplins, vient cette proclamation de la grande mission du Père, dite également mission des derniers temps. Mission toute nouvelle, qui n'a jamais été enseignée nulle part en Église jusqu'à maintenant. Mission extraordinaire, révolutionnaire même à certains égards. Mission à découvrir et à vivre progressivement de A à Z par tout le peuple de Dieu. Et mission du Père au sujet de laquelle nos savants et nos docteurs, même les plus qualifiés et chevronnés, ignorent encore tout. N'en ont pas encore la moindre idée, puisque le Père, en toute fidélité au compliment et au constat de Jésus, Matthieu 11, 25, semble avoir décidé, encore une fois, de ne révéler d'abord qu'aux tout petits devant lui ce nouveau grand secret de son cœur. À la manière de tant de gens qui se tournent vers un prêtre pour dire, au moment d'une importante décision ou d'une initiative risquée, « Bénissez-moi, mon Père », j'ai le goût de vous dire, à mon tour, « Chers frères et chères sœurs en Église, bénissez-moi ». Que cette audacieuse proclamation soit vraiment, pour sa gloire, le bien des âmes, et le renouveau des renouveaux en Église. À qui au juste s'adressent les cassettes sur la mission du Père? Comme je vous l'ai dit, il y aura trois séries. La première série, celle que nous enregistrons présentement, à la vérité, ne s'adresse pas tant à ceux et celles qui, comme la plupart d'entre vous, connaissent et vivent déjà la mission du Père, même si cela peut quand même les aider. Mais s'adresse plus particulièrement à deux catégories de personnes. D'abord, à ceux et celles qui ignorent tout jusqu'ici à ce propos. Ne connaissent aucunement l'existence, la nature ou la portée d'une telle mission dite du Père, ont donc tout à apprendre sur le sujet. Ces cassettes s'adressent également à ceux et celles qui sont conscients de vivre de plus en plus une relation privilégiée avec Dieu le Père, mais non plus jusqu'ici. Faute de renseignement ou de discernement, n'ont pu encore identifier exactement la nature, le sens et la portée de cette nouvelle relation qu'ils ont, relation de plus en plus intime et forte, en tant qu'enfant de Dieu, fils ou fille du Père. J'ai confiance que ces deux catégories de sœurs et de frères en Église vont pouvoir bénéficier largement du contenu de cette première série intitulée « Information générale sur la mission du Père ». Viendra ensuite une deuxième série intitulée « Les ministères invisibles ». Ces deux cassettes auront pour but de nous entraîner dans l'univers sans limite, à vrai dire, de ce qui s'appelle, dans la mission du Père, les ministères invisibles. Après en avoir précisé l'origine, la nature, le sens, les caractéristiques et les bienfaits, l'enseignement de cette deuxième série nous fera faire connaissance avec au moins deux bonnes douzaines de ces ministères dits invisibles. Les premiers, proposés et expliqués par le Père en tant que ministère de base, pour ainsi dire, dans la mission, les autres inspirés progressivement par l'Esprit du Père au cours des ans, ministères d'ailleurs des plus variés selon les personnes, les circonstances et les missions diverses de chacun et chacune. Enfin, suivra une troisième série intitulée « Les facteurs de croissance ». Elle sera réservée, celle-là, à ceux et celles qui vivent pour vrai et pour de bon la mission du Père. Ceux et celles qui y sont engagés sérieusement vont bien au-delà de l'importante dimension des ministères invisibles et entendent bien se laisser de mieux en mieux aimer par le Père et aspirer de plus en plus dans cette ivresse sans fin du nouveau renouveau spirituel continu. L'enseignement de cette troisième série nous fera découvrir des facteurs favorables à cette croissance spirituelle sans œillères ni frontières. Et pour terminer cette introduction, prenez connaissance de ce feuillet d'accompagnement qui vous a été remis à l'arrivée, feuillet imprimé en vert sur blanc, où vous retrouvez le schéma général de l'exposé, qui comprend 4 parties et 14 chapitres. Je profite de l'occasion pour redire ce que j'ai souligné plusieurs fois. Si on vous prête ou on vous donne en cadeau des cassettes, exigez toujours qu'elles soient accompagnées du schéma d'exposé, car il est fort utile pour suivre et vraiment tirer profit de l'enseignement. Et maintenant, passons à la première partie intitulée « Quelques précisions importantes ». Chapitre 1, distinction entre la mission des fondations et la mission dite du Père. Il y a une mission, une distinction importante en effet à établir et à maintenir entre, d'une part, la mission des fondations et d'autre part, la mission qui s'appelle « Mission actuelle du Père ». La mission dite des fondations, elle est publique, collective ou communautaire et visible, alors que ce qui s'appelle la mission du Père est au contraire mystique, donc tout intérieur. Elle est individuelle, sans lien aux autres, et invisible, c'est-à-dire non perceptible, et en outre, n'a absolument rien à voir avec les deux fondations. Revenons sur chacun de ces qualificatifs. D'abord, la mission des fondations Pax Vobis et que ton règne vienne. C'est une mission publique. Elle ne comporte aucun secret. Depuis 1984, elle se poursuit sous le slogan « Église, évangélise-toi toi-même encore davantage ». Elle est bien connue au pays et à travers le monde par des cassettes et des documents accessibles à tout le monde. Donc, mission publique. Elle est collective et communautaire dans ce sens qu'elle fournit à bien des gens de nombreuses occasions de se rencontrer, de partager, de s'entraider, même si les fondations ne constituent pas comme telles un groupement ou un mouvement. Il n'y a pas de recrutement de membres, ni de membership, ni de permanent. Il y a eu une politique de porte ouverte jusqu'à l'année dernière et au printemps en Europe, qu'on a appelée l'étape des eaux territoriales. Et il y en aura une nouvelle très bientôt, après le retour de Jésus. Et cette étape, la troisième, s'appellera l'étape des cieux ouverts. Elle permettra à ceux qui le désirent de faire de courts stages non résidentiels dans cet enseignement qui vient du ciel. On dit enfin qu'elle est visible, c'est que dans le sens que tout le monde, s'il s'en donne la peine, peut voir, peut entendre, peut se renseigner, peut lire, peut saisir concrètement et complètement ce qui se passe ou ce qui se brasse aux fondations. Ceux et celles qui déclarent ou insinuent que nous sommes mystérieux ou secrets sont habituellement des gens qui ne se sont jamais donné la peine de s'informer. Concernant d'ailleurs cette mission proprement dite des fondations, si toutefois vous désirez en savoir davantage, je vous réfère à une série de 3 cassettes, disponibles depuis quelques années d'ailleurs, intitulées « Ce que les fondations sont, ont et font » 01, G3, 09, 10 et 11. Et également une description synthèse de la mission des fondations qui a été préparée à l'intention de l'Épiscopat et insérée dans la première partie des 2 cassettes 4e interpellation fraternelle aux archevêques et évêques, au revoir et merci à un type actuel d'évêque. Quant à la mission du Père, contrairement à celle des fondations, elle est au contraire mystique, individuelle et invisible. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Mystique. C'est donc une mission qui se vit au niveau intérieur de l'âme, dans la foi inspirée et toute pure, donc à un niveau supérieur à celui de la raison. Elle est le fruit d'une union intime avec Dieu. Elle devient un genre de secret du roi entre Dieu et son titulaire. Elle est une grâce non perceptible de l'extérieur, à moins qu'elle soit expliquée à un frère ou à une sœur. On dit qu'elle est individuelle en ce sens qu'elle se vit chacun pour soi avec Dieu d'abord. On ne rejoint les autres que par son agir à lui. Cette mission du Père interdit donc tout planning, toute structure, toute concertation, rassemblement, contact, hiérarchie, ministère organisé. Tout se pense, se ressent et se vit en son âme et conscience personnelle, en relation avec Dieu qui inspire son enfant. Finalement, on dira que cette mission du Père, elle est invisible. Elle équivaut à un état de prière continue, tout à fait intérieur et non extériorisé, dans lequel notre cœur d'enfant de Dieu refile vers le Père ses constants désirs de salut et de bénédiction envers ses autres frères et sœurs de la terre, confiant dans la foi que lui en fera son agir immédiatement. C'est donc une mission invisible aux autres, inaudible, impalpable, non perceptible. Personne d'autre ne peut s'en rendre compte. J'oserais dire en terminant que cette mission est ni plus ni moins que la réactivation en nous de la récitation du Notre Père, une explicitation actualisée des sept grandes requêtes du Notre Père. Donc, en terminant ce point, ce chapitre, je voudrais préciser que l'appel du Seigneur à travailler à la mission visible des fondations, donc au renouveau spirituel en profondeur de l'Église, au retour à une Église œuvre du Seigneur entre les mains de son chef et maître Jésus, où toute vie chrétienne se remet dans le circuit du nouveau renouveau spirituel continu, qui ne plafonne pas, ne se cloisonne pas, ne résonne pas. Cet appel est bien distinct de l'autre appel à la mission invisible du Père. On peut être appelé à l'une sans l'être à l'autre. On peut être appelé aux deux, mais ces appels sont distincts et à bien discerner et prier dans chaque cas. Et quand on est appelé aux deux, à la mission des fondations et à la mission du Père, ces appels se font dans un ordre de succession, des délais dans le temps qui varient d'une personne à l'autre. Certains sont rejoints d'abord par la mission des fondations, puis plus tard par celle du Père. Chez certains, c'est l'ordre inverse. Quant à nous, c'est une pure gratuité privilégiée de Dieu que les premiers de cordée aux fondations aient été appelés simultanément, mais individuellement au fond de leur cœur, à cette autre mission, celle du Père. C'est une grâce et un privilège dont nous remercions de tout cœur le Père, le Fils et l'Esprit, car, et nous le découvrons chaque jour davantage, il existe entre les deux, malgré leur nature et rôle bien différents, une grande complémentarité, une solidarité, un mutuel enrichissement de plus en plus évident et bienfaisant, tant pour notre propre vie spirituelle individuelle que pour notre engagement pastoral, communautaire et prophétique en Église. Passons maintenant au chapitre 2. Prise de conscience progressive de l'existence de la mission du Père. Cette prise de conscience de l'existence d'une certaine mission du Père en cours, c'est pour ainsi dire faite, quant à moi, personnellement, du moins, en trois étapes successives et progressives. La première, au fond de mon être, au cœur même de ma vie, depuis bien avant mon ordination sacerdotale. En effet, grâce à l'éducation dans la foi reçue de mes parents, grâce à une bonne relation heureuse et fructueuse avec mon père et ma mère tout au long de mon enfance et de mon adolescence, le caractère filial s'est épanoui en moi très tôt. Dieu merci, sans blessure ni rupture. Et très tôt également, j'ai pu accueillir et apprécier d'autant plus la paternité divine à travers cette vie quotidienne, familiale et heureuse. Au moment de mon ordination, je pouvais donc déjà vivre une relation d'amour, de joie et de paix en tant que fils et enfant qui se sentait vraiment aimé tant du Père que de Jésus et que de leur esprit. Il y a donc toujours eu, et je vous le partage en toute simplicité fraternelle, sans grand mérite de ma part, mais par pure gratuité bienveillante de Dieu, chez moi, un cœur toujours très ouvert et à l'écoute du Père, tout autant que de Jésus et de l'Esprit-Saint. Et je crois, si je regarde maintenant dans le rétroviseur, que l'idée d'un Père céleste à l'œuvre continuellement, avec un plan propre à lui, des désirs à combler bien à lui, remonte en fait déjà à ses jeunes années, aussi loin que ça. Et au début des fondations, et depuis, j'ai eu la joie en outre, soit dit en passant, et entre parenthèses, de constater la même grande ouverture et grande ferveur d'accueil envers notre Père du ciel chez les deux dames qui, selon le dessein même de Dieu, se sont succédées en tant que cofondatrices aux fondations, à savoir Isabelle Gauvin et Hortense Lannoy. Nous avons donc eu aux fondations en plus un signe avant-coureur de cette grande mission. En effet, en réfléchissant et en partageant communautairement sur ce que le Seigneur nous demandait d'expérimenter et de vivre, et en réfléchissant également sur sa mémorable réponse à l'audacieuse question que j'avais eu la foi de lui poser directement en 1975, « Dis-nous, Seigneur, qu'est-ce donc au juste qui manque à ton Église ou nous manque à nous en ton Église? » Et on sait qu'il nous a donné 12 points importants en fait de réponse. Enfin, en dégustant au fur et à mesure tous ces vins nouveaux du Seigneur, je vous confierai que nous sentions progressivement, vraiment, au fond de nous-mêmes, depuis les débuts même aux fondations, que là-haut, au ciel, se tramait sûrement quelque chose d'extraordinaire pour ici-bas. Nous ne savions pas encore, c'était bien évident, que ce serait la mission du Père, car ce nom n'a frappé nos tympans pour la première fois qu'en 1983. Mais nous ne cessions de croire que notre bureau-chef, comme je dis souvent, préparait une opération extraordinaire. Les aspirations que le Seigneur ne cessait de nous mettre au cœur, étant de plus en plus fortes et généreuses, on se rendait bien compte qu'elles ne pourraient s'incarner que si l'Église et le monde étaient transformés à fond, radicalement, et que cela ne pouvait vraiment pas venir des fidèles ou des citoyens aussi anémiques que nous le sommes en général aujourd'hui. Le ciel se devait donc d'intervenir, et nous en avons toujours pressenti depuis lors l'éventualité de plus en plus prochaine. La deuxième étape a été celle de l'écoute attentive des âmes. Depuis que j'ai pris ma retraite du style 1 en Église, donc en 1975, pour me mettre en état et esprit de service aux fondations, inutile de vous dire que j'ai eu énormément plus de temps pour me disposer résolument à l'écoute des âmes. Et c'est grâce à cette écoute, accrue considérablement et plus attentive que jamais, des âmes à travers des partages fraternels, des réflexions communautaires, du counseling, j'ai pu découvrir, hors de tout doute, un peu partout en Église, tant à l'étranger qu'au pays, que les appels à la mission du Père, appels en direct reçus au fond des cœurs, se multipliaient et se propageaient partout de plus en plus, à travers le monde et pas seulement en notre Église. Ce fut la deuxième étape de ma prise de conscience que quelque chose de beau et de grand se préparait. D'ailleurs, nous ne cessons d'aller de surprise en surprise en découvrant précisément l'écoute attentive des âmes que des milliers de fidèles vivent cette mission, chacun de leur côté, sans même en connaître souvent l'existence, le nom ou les coordonnées, et le vivent parfois depuis 5, 10, 15 ans ou même davantage. En fait, Il et elle étaient disciples selon le cœur du Père sans le savoir. En répondant tout simplement et tout bonnement en leur âme et conscience à ses moindres désirs inspirés. On en rencontre donc beaucoup et de plus en plus qui se trouvent ainsi rassurés, confirmés et stimulés lorsqu'en retour de leur confidence, on peut leur dire que ce qu'ils ou qu'elles vivent, ça s'appelle la mission du Père. La troisième étape, ça a été, évidemment, la révélation même du Père. Pour nous transmettre les enseignements concernant sa grande mission, notre Père bien-aimé s'est choisi et s'est préparé, on n'a aucune peine à l'imaginer, un instrument exceptionnel, vraiment créé sur mesure et spirituellement ciselé jusque dans les détails. Pour le moment, il ne m'est pas permis de vous révéler son identité, ni son état de vie, ni son pays ou son lieu de résidence. Je me contenterai aujourd'hui de vous décrire à grands traits uniquement sa personne et vous dire un mot de l'importance et de l'ampleur de ce que le Père nous a livré à travers cette personne choisie entre toutes. J'aurai l'occasion, dans deux autres séries sur la mission du Père, lesquelles seront enregistrées au lendemain de la venue imminente de Jésus, de vous parler à nouveau et plus en détail de cet instrument privilégié du Père. En passant, et entre parenthèses, avant de terminer ce côté de la cassette, je tiens à mentionner que deux autres personnes vraiment mystiques, elles aussi au charisme exceptionnel, ont grandement concouru également à éclairer mon et notre discernement spirituel et à confirmer le oui solide dès les débuts de l'étape où, en 83-84, j'ai eu connaissance de ces enseignements extraordinaires du Père. Elles en sont elles-mêmes des porte-paroles de très haute fidélité.